Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité littéraire avec les goûteurs de la critique. J'ai nommé Olivia de l'Ambarterie, du L avec Patricia, Martin, de nos petits matins du week-end de France Inter, Jean-Claude Raspienjas qui porte une cravate, je le dis pour nos auditeurs, qui ne serait pas armé d'un écran et qui représente la croix. Et enfin Arnaud Vivian qui est sans cravate, mais qui est de Transfuge, mais aussi de Regard et de la revue Charles. On parle ce soir de La goûteuse de Hitler, de So Sad Today, des nouveaux romans de Daisy J, Andrei Makin et David Fuenquinos. Dans le courrier de la semaine, Yacine, qui habite New York, revient sur le commentaire d'Arnaud Vivian sur le livre de Patrick Rambaud, Emmanuel le Magnifique. Je me permets d'ajouter une petite précision historique. En effet, plusieurs pères fondateur de l'Amérique, dont Washington, cultivait du chanvre, qui est un type de cannabis à teneur très faible en THC. De là à dire qu'il le fumait, rien, Arnaud, ne permet de le conclure. Le chanvre, à cette époque, était utilisé pour fabriquer des cordages, des habits, du papier et occasionnellement fumé comme simple tabac sans effet euphorisant. Voilà, précision américaine. Suite du courrier, ça va être, je crois, à chaque fois à propos de Welbeck. Là, c'est assez sévère, c'est Madame Sacha Pietrokowski d'Annecy. Il fait beaucoup de bruit pour rien, ce dernier livre de Welbeck. Pourquoi une telle promo pour des propos si creux? Peut-on parler d'écriture? Le style est aussi plat que l'histoire. Ce qui est alarmant, c'est l'enthousiasme qu'il suscite. Au masque et la plume, Sébastien Berthaud s'étonne lui aussi. Et les masqués, ne vous êtes-vous pas un peu emballé sur le cas Sérotonine? C'est vrai que c'est foutrement bien senti, parfois intelligent, souvent drôle, mais franchement, côté écriture, il n'y a pas de quoi casser. Trois pattes à un canard unijambiste. Deux aphorismes du bon vieux Cioran suffiraient à mettre un fatal uppercut stylistique à Monsieur Welbeck. Sérotonine est le symptôme d'une époque où le statut d'écrivain mythique est bien vite décerné. Et dire qu'Hervé Prudhon vient de mourir dans l'indifférence générale, ce n'est pas Arnaud Vivian qui me contredira. Voilà, sinon à propos de L'étrange pays de Muriel Barbery, Julien nous écrit, et il a raison, les critiques ont eu l'air d'apprécier l'idée des bulles de champagne allant en sens inverse. Je me permets de leur indiquer qu'il ne s'agit malheureusement pas d'une première. Ces bulles sont déjà dans Le bon gros géant de Roald Dahl, où elles provoquaient de gargantuesques flatulences. Ce que souligne Patrick Gaston, qui habite Angers. Très belle idée du champagne dont les bulles, au lieu de monter, descendent. Mais elle est inspirée de la pétillante frambouille qui, au lieu de faire roter, fait péter, et qui est le breuvage favori du bon gros géant de Roald Dahl. Frambouille, dont Lucie Bredin, qui est prof, précise qu'elle provoque en guise d'euro les fantabuleux crépitages. Donc en fait, elle n'a rien inventé, Barbery. Hein. Voilà, sinon, suite aussi du feuilleton sur le tortor provoqué par le roman de Gilles Leroy en début d'année, là c'est Alain Grégoire de Rennes. La tortor est citée dans le glossaire argotique de Touchez pas au Grisby de Simonin, série noire numéro 148. Lucie Barrault cite San Antonio, nous tortorons nos choucroutes en silence, je baigne dans un bien-être suave, j'invite le masque à relire ses classiques, et enfin... Et elle a bien raison, Nadine Dumas, qui est libraire, nous écrit son émotion à l'annonce de la disparition d'Eric Kolder, un magnifique écrivain, peu connu, nous dit-elle, un homme de cœur sensible, un grand monsieur de la littérature. Un mot d'hommage de votre part pour qu'on ne l'oublie pas, nous dit Nadine Dumas. Eh bien oui, vous avez raison, chère madame, Eric Kolder est mort le 22 janvier dans le Médoc. Il avait 58 ans. Cet écrivain, chanté par Vincent Delerme, avait écrit parmi d'autres merveilles, mais on en avait souvent parlé au masque, La belle jardinière, L'homme de chevet, Mademoiselle Chambon, La saison des bijoux, et son dernier, La belle n'a pas sommeil, des livres dans lesquels on lisait, on buvait beaucoup aussi, on marchait pieds nus, et on ne craignait pas d'être généreux. Voilà, salut Eric. Et on commence à votre demande, je le sais, par Deux sœurs, le nouveau roman chez Gallimard de David Fuenquinos, dont le mystère Henri Pic est adapté au cinéma par Rémy Besançon avec Fabrice Lucchini. Le film sortira le 6 mars. Bref, Deux sœurs s'ouvrent par une séparation, ce qui n'est pas follement original dans la littérature. Mathilde La Trentaine, qui est prof de lettres et fan de L'éducation sentimentale de Flaubert, un livre qui a changé sa vie, apprend de la bouche de son compagnon qu'il la quitte alors qu'il lui promettait de l'épouser. Étienne a cédé aux avances de son ex, Iris, revenue d'Australie après 5 ans d'absence. Et pour Mathilde, eh bien, c'est un cauchemar, d'autant qu'elle est mise à pied pour avoir giflé un élève, ce qui ne se fait pas. Sa voisine psychiatre parle de mauvaise passe et elle est finalement recueillie par sa sœur Agathe dans le petit appartement qu'elle occupe avec son mari et leur fille. Roman donc qu'il récite de cette cohabitation risquée et de la métamorphose assez terrifiante de Mathilde. Patricia ?
J'étais sûre que tu allais commencer avec moi. Oui, c'est vrai que c'est très très énervant de se faire supplanter par une ex, bien plus que par une nouvelle. Et c'est d'ailleurs ce qui énerve beaucoup notre héroïne et qui participe à son grand malheur. Alors, je sens des ondes négatives de part et d'autre. Je sens que ce livre
Personne n'a parlé.
Oui, mais quelque chose me dit qu'il y en a beaucoup ici qui n'ont pas aimé. Mon voisin de gauche, notamment, avec qui j'en ai parlé l'autre jour, qui me disait...
Le monsieur cravaté.
Alors, moi, je vais quand même venir un peu à la rescousse de ce livre. Parce que, évidemment, ce n'est pas Anna Karénine, ça c'est sûr. Mais sous couvert de quelques cucuteries, c'est vrai que parfois, il n'en est pas dénué, notamment la toute fin, je trouve, est quand même un peu...
Tu veux dire quand le roman bascule ?
C'est très drôle.
Non,
mais
le roman bascule, j'ai dit.
Oui, le roman bascule, voilà. Après, donc, ce basculement, bon, là, c'est assez... Ou soit très attendu, soit passablement invraisemblable. Mais je trouve qu'il y a quand même des scènes qui sont pas mal faites, qui résonnent. Quand il lui dit, par exemple, que l'histoire est finie, elle le sent venir, mais quand même, elle se dit, mais c'est pas possible, etc. Puis à un moment donné, pouf, elle... Quelques temps plus tard, elle, justement, c'est presque un crime annoncé verbalement, où elle lui dit c'est même pas la peine de remettre les pieds ici, etc. Et quand tu reviendras prendre tes affaires, je n'y serai pas. Enfin, tout ça, il y a quelque chose d'assez bien senti. Également, quand elle se retrouve chez sa sœur, il y a une sorte de bonheur un peu mièvre, mais tu me regardes comme si je n'étais en train de dire que des âneries. Je t'assure, c'est déstabilisant. Et donc, je trouve que c'est quand même assez bien décrit globalement, même si, à certains moments, c'est vrai, c'est plutôt faible. Mais sur le glissement, sur le fait qu'on est rejeté hors de soi, qu'on se perd, qu'on se reconnaît plus, qu'à un moment donné, la tête ne marche plus, qu'il n'y a que l'instinct et qu'on peut ne plus être vraiment responsable de ses actes, en tout cas ne pas se rendre compte de leurs conséquences, je trouve que c'est quand même pas mal fait.
Enfin,
moi, j'y ai cru.
Je suis un peu d'accord avec Patricia.
Ah bon ?
Voilà. C'est pas un très grand livre.
Non.
Mais c'est pas non plus un très mauvais livre. Voilà.
Même c'est vrai, mais c'est vrai.
Je vois que tu fais progresser l'exercice critique.
Ouais, oui.
Je trouve. Non, parce qu'en fait, je.
Il y a un bel espace entre les deux et je suis sûr que tu vas arriver à garer Fuenquinos, là. Fais un créneau entre.
Marche arrière un peu.
Ouais.
Je te rappelle que je ne conduis pas. Non, je trouve que le sujet est intéressant, en fait. Et d'ailleurs, il est au cœur de plein de romans en ce moment, la séparation.
Bah oui, mais attends.
Parce qu'il semblerait. Tu peux me laisser finir ?
Depuis les tragiques grecques, oui.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que la rencontre aujourd'hui a beaucoup changé, notamment du fait des réseaux sociaux, de Tinder, de tous les moyens qui permettent de rencontrer des gens de manière différente. Mais il semblerait que la séparation n'ait pas du tout changé. Et je trouve que c'est un vrai sujet de raconter comment elle contamine toute ta vie entière. Et comment, effectivement, tu deviens fou. C'est d'ailleurs le sujet du très beau film de Valeria Bruni, Tedeschi, Les Estivants, film que j'ai adoré et qui montre bien comment une séparation contamine presque toute une maison et tout un séjour de vacances. Alors là, l'idée est bonne. Après, le roman est assez plat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne peux pas inventer.
Oui, il tire un peu à la ligne, c'est vrai.
C'est un peu banal. Il passe un peu à côté du sujet qu'il aurait pu faire. Et la fin, alors là, la fin, c'est comme si vous avez... Il a dessiné la silhouette d'une femme et puis tout d'un coup, il fait des pieds. Et les pieds ne vont pas du tout avec le reste de la silhouette.
C'est un peu les enfants qui dessinent comme
oui,
ça.
Oui, c'est un peu... voilà, c'est un livre enfantin. Moi, je trouve que Fuenquinos, il a un talent fou. Ouais. Il y a des livres que j'ai adorés. Mais là, il faut qu'il bosse, juste.
Jean-Claude.
Pour tout vous dire, on n'y croit pas. C'est-à-dire, on se dit, c'est la parodie d'un faux Fuenquinos, quoi. C'est Rambo qui est revenu à l'époque où il faisait ça.
Patrick Rambo,
oui.
À l'époque. Rambo.
Oui, c'est Patrick Rambo.
C'est le retour de Rambo. Ouais, c'est évident que ça soit Patrick.
Non, c'est le retour du premier Patrick Rambo. Rambo 3. Quand il faisait ça avec son copain Burnier, où il faisait des pastiches. Alors, on n'y croit pas. On se dit, c'est un faux Fuenquinos. On regarde. Mais non, c'est bien ça. Alors, c'est pas du tout un roman, et que les choses soient claires. C'est un diaporama de clichés. Notre ami Fuenquinos, je ne sais pas ce qu'il va devenir par la suite, mais il a un avenir de VRP multicarte de lieux communs. Que des lieux communs. Mais que des lieux communs.
C'est aussi un représentant... C'est difficile d'être original lors d'une séparation.
Original, bon.
Ça fait mal.
C'est aussi, dans son activité de VRP, un représentant en adverbe. Je crois que c'est celui qui, aujourd'hui, dans la production contemporaine de fiction, est celui qui utilise le plus d'adverbes. Mais quand je dis plus, c'est qu'il y a toutes les phrases, il y a un adverbe. Là, vraiment, à mon avis, il a une commission là-dessus. C'est un distributeur de cela. Lui, si tu veux, le sujet de chaque phrase, c'est cela. Quand on en est à écrire, alors qu'on est chez Gallimard, cela à chaque phrase, c'est plein de ainsi aussi. C'est le démonstrateur du zéro style. Voilà. Là, Fuenquinos, c'est zéro style, et tu le mets, il va te démontrer ça sans problème. C'est le spécialiste de la redondance. Toutes les phrases sont suivies d'une autre. Enfin, toute phrase est suivie d'une autre.
C'est logique.
Normalement, c'est ce qu'on espère dans un livre. Hein.
Alors, c'est le principe.
Si vous pouvez me permettre, je n'avais pas fini.
C'est le concept.
Je n'avais pas fini cette phrase-là. Cette phrase-là,
j'ai même imprimé.
Oui, mais je l'avais pas. Oui, mais cette fameuse phrase.
Non, mais tu aurais pu dire toute phrase est suivie d'une autre. Hélas.
Alors, non, parce que c'est même pas hélas. C'est-à-dire que toute phrase donc est suivie d'une autre. En général, mais chez lui. La phrase qui suit, elle redit exactement la même chose. Il le répète, il le souligne. Il a évidemment pas abandonné son tic qui est épouvantable, qui est les notes en bas de page.
Ah, moi, j'adore ça. Oh, non, ça, c'est sympathique. Il y en a des rigolotes, il y en a pas trop.
Alors, écoutez, alors, je vais vous dire un truc. Si vous voulez gagner du temps, vous allez dans la librairie, vous regardez les notes en bas de page. Et si ça vous convainc de lire le livre, il n'y a pas de souci. Alors, il n'y a pas une page pour sauver l'autre. Alors, ce que je voulais dire, quand même, c'est un livre. Je voudrais finir là-dessus. Oui. C'est un livre qui est indigne de cette collection blanche. Franchement, Gallimard engage son crédit avec la...
Non, mais calme-toi,
Jean-Claude. Non, mais si...
Il y a plein de drames aujourd'hui.
Si, Desserre un peu ta cravate.
Non. Mais si, parce qu'à un moment, si tu veux, le lecteur qui est habitué à la collection blanche, a l'habitude d'une certaine qualité. Donc, il y a tromperie sur la marchandise. Donc, dès demain, moi... Je porte le coup. J'ai que choisir les 60 millions de consommateurs.
Oh,
voilà, je vous le dis. Et alors, j'ai oublié de vous dire une chose.
Non, ça va maintenant.
Alors, non, parce que j'ai oublié de vous dire une chose.
C'est qu'en plus,
il y a d'autres livres que j'ai.
Non, mais juste une chose, parce que les gens vont dire, ouais, il attaque, il a sa cravate, tout le truc. Alors, je vais vous dire. En plus, il philosophe. Alors, par exemple, page 17.
Mais si,
c'est important.
T'as beaucoup parlé, Jean-Claude.
Non, mais juste une chose, quand même.
En plus, c'est pas bon pour ta santé, là.
Non, mais c'est bien que les gens sachent de quoi il s'agit, quand même. Tu vois.
Oui, mais je crois qu'on a compris, là.
On ne sait jamais, page 17, on ne sait jamais vraiment ce que veut dire une main.
Arnaud.
Tu vois. Bon, le problème, c'est qu'en plus, c'est Flaubert qu'on assassine dans cette histoire. Hein. N'oublions pas, donc, le personnage principal, qui s'appelle Mathilde, est une professeure de français, on l'a pas dit, qui fait une fixette, tout à fait normale, d'ailleurs, lorsqu'on est professeur de français, sur l'éducation sentimentale. Mais enfin là, évidemment, ça prend une proportion chez elle très, très importante. Et d'ailleurs, comme Fuenquinos est un romancier subtil, elle va tomber amoureuse d'un Frédéric. Donc l'idée, c'est un bovarisme 2.0 au temps des réseaux sociaux, de Facebook, de Tinder. C'est ça, si j'ai bien compris, l'idée de Fuenquinos. Bon, c'est pas l'idée la plus originale, parce que là, l'amour du temps des réseaux sociaux, ça commence à être pas mal fait, hein, beaucoup. Et ce qui est très étrange en plus chez Fuenkinos, c'est qu'il est réac. Il est là à dire oui, le problème, c'est que les enfants maintenant peuvent accéder aux dessins animés avec Internet exactement quand ils le désirent, alors qu'avant il fallait attendre devant la télévision, patienter, etc. Il y a toute une vision, d'ailleurs, dans les notes de bas de page, développée sur une douleur moderne à propos d'Internet, à propos de Facebook. Et il y a ce côté là. Il est jeune, Fuenkinos. Il est déjà vieux dans son appréhension des choses. Parce que c'est vrai que les réseaux sociaux ont modifié sans doute les conditions de la rencontre amoureuse, des aventures, etc. De la jalousie aussi. Il y a un autre livre dont on va parler tout à l'heure, qui est américain pour le coup, qui évoque ça aussi. Mais c'est sa vieille et bon. En même temps aussi une espèce de démagogie. Alors démagogie, pourquoi ? C'est parce que par exemple sa copine, elle est prof d'espagnol, elle est prof de français et elle dit je ne sais même pas pourquoi apprendre l'espagnol, ça ne sert à rien. Et il y a une note en bas de page, les fameuses notes en bas de page de David Fuenkinos, où il dit oui, on voit bien que c'est l'angle français et l'espagnol sont à l'agonie. Mais je ne sais pas où il vit, David Fuenkinos. Aux États-Unis, la langue la plus parlée n'est plus l'anglais, mais l'espagnol. Donc on ne sait pas de quoi il parle. Il n'est absolument pas même. Je veux dire, ça n'a aucun sens ce qu'il raconte. Alors à propos du style, là aussi, moi, c'est la littérature du quelque chose. Déjà, la première phrase. Au tout départ,
on passe beaucoup
Mathilde
de temps sur ce livre.
Perçu quelque chose d'étrange sur le visage d'Étienne. Perçu quelque chose d'étrange. Plus loin, je lis quelque chose d'autonome traverser son expression. Quelque chose d'autonome.
C'est pas le pire. Hein.
En
c'est
quoi,
pas le
pire. En ah, quoi là, c'est pour ça que je dis, c'est Flaubert qu'on assassine. C'est-à-dire que.
Enfin là, c'est Fuenkinos que vous assassinez.
Mais ben oui, mais.
Ah, bon, à un moment là, je dirais. Bon. Il le fait tout seul.
Ce n'est pas possible.
Je pense que le message est passé, je crois. C'est donc Deux sœurs de David Fuenkinos chez Gallimard. Gros succès en librairie pour la goûteuse d'Hitler de l'italienne Rosella Postorino, traduit chez Albin Michel par Dominique Vitoz. Un roman inspiré d'une histoire vraie, puisque elle s'appelait Margot Volk, devenue dans le roman Rosa Sauer, née en 1943 dans son quartier général de Prusse orientale, appelé la Tanière du Loup. Hitler, qui craignait toujours d'être empoisonné, demanda à 10 femmes de goûter les plats qu'il allait consommer, d'ailleurs pour l'essentiel des légumes, puisque le Führer était végétarien. Depuis que j'ai lu ça, je bouffe beaucoup de viande. Rosa, alors âgée...
Mais c'est faux, hein, c'est faux. Évidemment, là, c'est exactement... Mais non, le scandale de ce livre, c'est que Hitler n'était pas végétarien, mais bon.
J'ai lu ça dans le livre. Là, je raconte le livre pour l'instant, je le résume.
Oui, mais il suffit d'aller sur Internet, taper « Hitler était-il végétarien ?» Vous allez voir.
Rosa, alors âgée de 26 ans, donc elle s'exécute sous la menace des SS. Faut dire qu'elle n'a pas vraiment le choix, tout en se demandant chaque fois si la première bouchée n'est pas la dernière, sans compter qu'elle vient de Berlin et qu'elle est donc considérée comme une étrangère par les autres femmes. Et puis aussi le lieutenant Ziegler, tout à fait odieux, mais qui est amoureux d'elle. Le roman donc se présente comme la confession tardive. La vraie Margot Volk est morte à 90 ans et quelques. Donc, confession de la goûteuse d'Hitler, qui se considère comme, là je cite, à la fois victime et coupable, puisqu'elle a contribué à maintenir en vie un monstre. Alors, qu'est-ce qui va pas, Arnaud? Qu'est-ce qui va pas?
C'est le point Godwin de la littérature. Bon, déjà, on avait déjà eu La cuisinière d'Himmler par François-Olivier Gisbert. Donc là, maintenant, on a la goûteuse de Hitler. J'attends le sommelier de Göring.
Ouais. Hein,
le pâtissier de Ribbentrop, ça va être super. Hein, et puis le boucher de Mengele. Là, ça va être le boucher de Mengele, je le sens bien. Déjà, vous voyez. Alors, évidemment, le point Godwin, c'est quoi? C'est que Hitler, cette question de Hitler végétarien, c'est de la pure propagande nazie. Ça l'était déjà à l'époque. Hitler a fait boucler les sociétés végétariennes en 1933. Les végétariens allemands ont dû quitter le territoire. Toutes les revues végétariennes ont été interdites. On disait aussi qu'ils ne fumaient pas et qu'ils ne buvaient pas. C'était la propagande. Et vous imaginez, en 42, alors que la viande venait quand même sérieusement à manquer en Allemagne, par ailleurs, il y avait une idée de propagande de dire qu'ils ne mangeaient pas de viande. Plus l'austérité du personnage, etc. On sait, parce qu'il y a vraiment là... Vous ouvrez Internet, vous tapez « Hitler était-il ?» et la première chose qui vient, c'est « végétarien ». Tout de suite, et là, vous tombez
mais pourtant,
sur des pages et des
pages. Elle s'est inspirée de la vraie goûteuse qui, elle, disait qu'elle goûtait
mais
des plats
idée,
de végétariens.
Quand il y a une grande différence entre être végétarien et ne pas manger de légumes parce qu'on suit un régime. C'est pas exactement la même idée. Et donc, à chaque fois, là, depuis un moment, même dans la chute,
le film avec Bruno Gans qui vient de nous quitter, merveilleux acteur, qui était un film qui était fait pour démystifier le personnage d'Hitler, qui était très bien
qui
fait.
Qui était Hitler dans le bunker uniquement.
Lui-même, hein, ce film, disait que Hitler était végétarien. Mais encore une fois, je vous affirme, très sérieusement, il y a plein de preuves, il faut aller voir. J'ai fait ça, je suis allé regarder sur Internet parce que je voulais vraiment.
Bah, la faute est grossière quand même, si, elle a, si c'est ça.
Mais c'est la une faute qui dure depuis des années. Encore une fois, c'était déjà dit dans La Chute, qui était pourtant un film exceptionnel de véracité historique, essayant de enlever le mythe.
En dehors de ça, que vaut le livre pour toi?
C'est une merde.
Oh ben non, mais c'est pas possible d'entendre ça.
Mais si, c'est un mélo. Alors, elle est là, elle est aux toilettes, et son urine sent l'asperge parce qu'elle a goûté des asperges, et elle pense à sa copine qui a mangé des asperges, et elle pense à Hitler
qui a mangé des asperges.
Mon urine sent la même urine que le même parfum.
Attendez, il y a des gens qui dînent.
C'est aberrant. Ce livre, est d'une nullité incroyable.
Patricia, tu as l'air de souffrir.
Ah oui, absolument. Je suis consternée d'entendre ça. Effectivement, c'est vrai, l'histoire de l'urine. Mais enfin, tu peux pas résumer le livre à ça, quand même. Moi, je trouve que, la question que je me suis posée, parce qu'elle le dit pas à la fin. On ne sait pas si cette femme, celle qui a réellement été la goutteuse d'Hitler, a écrit un journal, si elle a pris des notes.
Non, mais elle a témoigné.
Elle a donné une interview
à la fin à 90 ans.
Et après.
Et c'est de ça que s'est inspirée.
Elle a voulu la rencontrer, puis manque de bol, elle est morte. Bon. Mais dans cette interview, elle a quand même pas dû raconter tant de choses que ça. Donc après, comment est-ce qu'elle a travaillé? Sur quels documents elle s'est appuyée? Ça, c'est intéressant pour savoir si ça correspond vraiment à la réalité de cette femme. Mais je trouve que sinon, alors ça, et ça, on n'a pas, moi, j'ai aucun élément pour le dire. Alors, ce que tu me dis d'Hitler, évidemment, si elle se trompe à ce point-là, on peut dire que tout le reste est approximatif. Mais c'est quand même un beau personnage romanesque, je trouve. Oh. Ah, ben si. Parce que c'est une femme qui est emblématique de quelque chose d'ordinaire. Cette femme est ordinaire. Le Ziegler qui va tomber amoureux d'elle, tombe-t-il vraiment amoureux d'elle? En fait, on n'en sait rien. Ils sont dans la folie de la guerre, ils sont seuls, lui il est loin de sa famille qu'il voit jamais, toutes ces femmes, parce qu'il n'y a pas que la goutteuse, que cette Rosa, il y en a aussi plein d'autres.
Mais le style, c'est indigent.
C'est pas indigent, pourquoi tu me dis ça? Peut-être mal traduit, mais moi j'en sais rien, je vois pas pourquoi ce serait indigent.
On est passé du roman à l'eau de rose, au roman à l'urine d'asperge.
T'as été traumatisé par cette, ça doit te poser un problème de sentir que ton pipi sent l'asperge quand tu en as mangé. Pas possible. Que t'en fasses une obsession pareille.
S'il vous plaît.
Je trouve que, justement.
Restez décent quand même.
Je trouve psychologiquement, elle est sur un fil, cette femme qui n'est finalement pas, il se trouve qu'elle est, c'est pas glorieux, quoi. Et si elle meurt, elle va pas mourir en héros, elle le dit d'ailleurs. Elle va mourir comme une pauvre fille, plutôt comme un rat. De la même manière que ce Ziegler, tous ces gens passent quand même leur temps, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, ils passent leur temps à avoir la trouille de qui est au-dessus. Ça, c'est quand même bien vu. Et tu vois bien quand même comment la guerre, finalement, donne des gens, au fond, totalement sacrifiés, dont la vie est totalement sacrifiée. Et je trouve qu'il y a des beaux personnages quand même. Le mari de la goutteuse, Grégor,
Jean-Claude.
Il est au front russe, oui.
Alors, c'est ambitieux, puisqu'on est à la première personne d'eux, qu'en effet, très vite, on se rend compte qu'elle n'a pas énormément de documentation.
Mais c'est un roman, encore une fois.
Oui, c'est un roman, mais très bien. Mais comme elle nous dit que c'est une histoire vraie, bien sûr, c'est un roman, donc elle est libre de faire ce qu'elle veut, donc elle le fait. Donc il y a deux parties. Il y a, en effet, l'atmosphère oppressante d'hostilité, de violence sourde, les galonnés fanatisés, l'ambiance d'angoisse à chaque repas, à chaque cuillère, tout ça, le confinement, la soumission, tout ça y est. Bon, il y a les parties obligées de ce genre de roman, c'est-à-dire l'apprentissage du salut nazi qui contracte tout le corps, c'est pas un truc naturel, la brûlure et le souffle chaud des autodafés, il y a évidemment l'épisode de l'empoisonnement, il y a l'attentat raté contre Hitler, il y a la débandade des derniers jours, et il y a la description de ce monde absurde et dément. Sauf que, à un moment, cette histoire d'amour, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que cet officier nazi qui vient tous les soirs, qui passe la nuit, devant la fenêtre de cette femme qui est asservie, qui est une esclave pour les nazis, et qui est une esclave pour lui, officier, et il va passer toutes les nuits, il est devant sa fenêtre, il bouge pas, il attend qu'elle vienne le voir, elle vient pas. Ce type qui a servi
elle l'attend derrière sa fenêtre.
Des soirées elle y va pas, enfin bref, tout ça. Mais ce type, dont l'ordinaire est d'asservir qui il veut, et de profiter de qui il veut, de la pire des façons qu'il soit. Il est là comme un premier communiant à attendre tous les soirs avec le risque de l'amour.
Mais non, mais c'est ça le truc. C'est ça
le
truc.
Mais en plus, avec le risque, alors si on veut être dans du réalisme, le risque d'être vu, d'être dénoncé, et dans ce cas-là, ça va pas rigoler. Bref. Il y a un moment où c'est un peu, non pas n'importe quoi, mais c'est invraisemblable et c'est dommage. Voilà. En tout cas, c'est pas renversant comme livre.
Alors moi, j'ai trouvé ça consternant, mais alors de la première à la dernière ligne. D'abord, je trouve extrêmement malhonnête qu'elle fait, parce qu'elle voit donc l'article de cette dame dans le journal. Elle est un peu lente, alors elle met longtemps à lui écrire. Paf, elle lui écrit, la dame est morte. Là, au lieu de se dire, je vais faire un autre livre, eh bien non, elle se dit, je vais faire un livre en me posant la question, et si c'était moi, et si j'étais à la place de cette femme, alors je lui donne mon prénom. Bon, tout ça est déjà n'importe quoi. Après, c'est écrit, mais moi je regrettais Fuenquinos énormément, je suis désolée.
Peut-être
c'est
pas à
plat
ce point-là, mais...
comme un trottoir. On devrait, à chaque bouchée que cette femme porte à ses lèvres, avoir la trouille, qu'elle meure empoisonnée. On s'en fout, mais on se dit, mais qu'elle meure, que ça soit fini. Il y a 10 femmes. Moi, je peux pas vous dire, page 150, je savais toujours pas qui était qui, elle
non.
que...
Personne machin. N'existe.
Parce que elle n'arrive pas à les faire exister, donc on sait pas s'il y a des méchants, des pas gentils. Enfin, on lui reproche de venir de Berlin, donc ça n'a aucun sens. On se dit, évidemment, elle va avoir une histoire d'amour avec un nazi. Évidemment, l'histoire d'amour arrive, qui est pathétique. Ça m'a fait penser à Karl Lagerfeld, disparu il n'y a pas très longtemps, que j'avais interviewé, et je lui avais demandé s'il lisait des romans contemporains. Et il m'avait dit, avec son arrogance, les romans contemporains, c'est de l'histoire pour les concierges. Eh bien, ça m'a fait penser à ça, tout le livre.
Oui, je suis sûr qu'il avait d'ailleurs des goûteurs, Karl Lagerfeld.
C'est
bon,
possible.
Cela dit, il y a quelque chose quand même qui me gêne sushi, dans tout,
quand même,
dans tout ça, c'est
pas,
que l'incroyable succès de ce livre...
Mais c'est incompréhensible. Mais
c'est justement, malheureusement, c'est compréhensible. Parce que vous lisez La Goûteuse d'Hitler, eh ben, ça fait vendre. Voilà.
Bah, vous lisez Fuenquinos et ça marche, je veux dire, c'est pareil. Je veux dire.
C'est
aussi incompréhensible.
C'est
incompréhensible. C'est incompréhensible.
Je ne comprends pas parce que c'est très ennuyeux, en plus.
Alors, allez, on
la livre
à voir, c'est La Goûteuse d'Hitler, c'est donc Rosella Postorino, et c'est chez Albin Michel. On n'avait plus vraiment de nouvelles de Dai Sijie, écrivain, cinéaste chinois, installé en France en 1984 et qui est reparti dans son pays en 2011, pour s'occuper d'ailleurs de sa mère. Dai Sijie qui écrit directement en français et dont le premier roman, en 2000, Balzac et la petite tailleuse chinoise a été, vous le savez, un succès mondial. Voici donc L'Évangile selon Yong Sheng, un roman de 450 pages chez Gallimard. On est en Chine méridionale, Yong Sheng, qui est né en 1911 avec quelques petits problèmes, est le fils d'un artisan qui fabrique des sifflets pour colombes. J'adore cette idée, qui sont attachés à leurs pattes et qui feraient des musiques magnifiques. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est inventé. Mais j'en rêverais de ça, des colombes avec des sifflets aux pattes. Marié de force à 14 ans, Yong Sheng, sous l'influence de son institutrice, qui est la fille d'un pasteur américain, décide de devenir le premier pasteur chinois de la ville. Il fait des études de théologie à Nankin. Il revient dans sa ville natale de Putian jusqu'à l'avènement en 49 de la République populaire de Mao, qui annonce la révolution culturelle. Et voilà, et du jour au lendemain, Yong Sheng devient évidemment, après cette... République populaire, il devient un agent secret de l'impérialisme, un propagateur d'opium intellectuel. Et il faut savoir quand même, et ça ajoute peut-être à l'émotion de ce livre, que le grand-père de Dai Sijie était pasteur. Et puis rien que pour cette phrase où la lune ressemble à un cheval débridé qui galopait à reculons, moi je dis chapeau l'artiste. Jean-Claude.
Mais moi aussi, je dis chapeau l'artiste. Moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce livre. Je trouve qu'il y a une vraie ambition, il y a du vrai romanesque. Enfin, on sort un peu de tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent. Là, on a un type qui s'affronte à quelque chose de vraiment important.
Et puis on le retrouve, on l'avait perdu de vue,
oui.
Ce cher Dai
Sijie. Oui. Et tu dis qu'il est reparti après 27 ans, en effet, vécu en France, il est reparti en Chine, pour s'occuper de sa mère, mais aussi pour écrire l'histoire de son grand-père. Car là, c'est vraiment l'histoire de son grand-père. Hein. C'est-à-dire, évidemment, romancé, mais c'est vraiment l'histoire de son grand-père. Il a connu ce grand-père, et il a vécu par exemple la révolution culturelle devant son grand-père. Il raconte très bien dans une interview qu'un jour il est revenu de l'école, il a vu son grand-père dans ce qu'il décrit, c'est-à-dire tout le monde lui crachait dessus, tout le monde l'insultait, la plaque de 10 kilos de ciment autour du cou, il l'a vu, enfin bon. Donc il brasse en quatre parties un siècle d'histoire de Chine, déjà faut se cogner à ça quand même, hein, quand on est romancier. Il le fait, moi je trouve admirablement, il écrit directement en français.
Et en français.
Voilà. Voilà.
Oh, comme depuis son premier livre.
Hein. Et vous allez dire que j'insiste, si Fuenquinos écrivait aussi bien.
Oh non, mais non,
non, mais parce que là on est chez le même éditeur, alors là oui, bravo Gallimard. Là, bravo Gallimard de publier un livre aussi important, avec une vraie ampleur romanesque, historique, des vrais personnages. Ce qui est très beau aussi, par exemple, l'histoire d'amour avec Marie, elle est absolument magnifique, parce qu'à un moment, il court après cette femme à travers la Chine, et on comprend pas très bien exactement ce qu'il cherche, et c'est résolu. J'en dirais rien. C'est résolu dans une scène qui est absolument magnifique sur la raison pour laquelle il court après cette femme, et c'est très très beau. Non, c'est en plus, c'est un roman olfactif, c'est un roman sensuel, c'est un roman charnel.
Oui, et en même temps écrit, je trouve, avec, depuis le début, avec une grande simplicité. C'est-à-dire, il n'y a pas de préciosité. Patricia.
Non, mais c'est un conteur absolument exceptionnel. Moi, j'ai trouvé que c'était un roman lumineux parce que c'est à la fois un conte et en même temps, c'est hyper réaliste et la réalité qu'il raconte, elle est absolument atroce et ça n'empêche pas qu'il y a des moments qui sont, mais vraiment, comme, puisqu'il s'agit d'oiseaux, on peut se dire que c'est doux comme le toucher d'une plume d'oiseau, quoi. C'est léger et ça raconte au fond l'aventure, une aventure, alors que ça parle beaucoup de religion, en fait. On se dit, contrairement à Jacques le Fataliste, non, rien n'est écrit là-haut. Il va d'étonnement en étonnement, avec, alors que ce n'est plus un enfant, en tout cas, au début, oui, mais il devient vite adulte, il a véritablement une incrédulité, en fait, d'enfant.
Mais tu parles d'aventure, mais
c'est très puissant.
C'est aussi une tragédie.
C'est une tragédie, mais il regarde les autres, il se regarde lui-même, il regarde ce qui advient, avec un étonnement absolument, enfin que moi j'ai trouvé très fort. Et effectivement, il y a des scènes comme ça, on se souvient des scènes. Il y a plusieurs scènes avec ce fameux arbre qui est l'agulaire, qui est un arbre symbolique apparemment en Chine, qui renaît en quelque sorte de ses cendres. Et dès le départ, il y a une scène qui est assez drôle, c'est-à-dire qu'il y a une vieille femme qui est aveugle, qui le tâte là où il faut, pour savoir si c'est vraiment un garçon, et puis elle ne trouve pas tout ce qu'il faut.
Ben voilà.
C'est-à-dire que
il manque quelque chose.
Il en manque une. Yeah. Et comme par ailleurs, il y a des graines d'agulaire, elle dit, mais quand on a qu'un testicule et que on a des graines d'agulaire qui sont plantées en même temps, c'est qu'on aura un grand destin. Et puis on retrouve l'agulaire plus loin dans le
oui, avec alors, son petit-fils, etc. Le testicule, en revanche,
on le cherche, on le cherche.
On le cherche.
Non, mais il y a des scènes quand il retrouve son tortionnaire qui devient ensuite un ami. La scène de l'œuf dans le train quand il ne mange qu'un et c'est raconté. Il passe un fil dans un œuf et pendant un mois, il se nourrit parce que quand il va travailler, enfin, quand il va étudier la théologie à Nankin et qu'il se retrouve à manger de la brioche rassis, simplement parfumé de cet œuf pendant un mois, mais il a un talent de conteur absolument, encore une fois, extraordinaire.
Olivia.
Ben moi, c'est à peu près tout ce que j'aime pas. C'est une sorte de mélange, donc, un conte, un roman d'aventure, un roman historique, la grande histoire, la petite histoire, tout ça. Mais c'est pas mal. Je trouve que d'ailleurs c'est même le seul livre de ce soir qui me paraît un livre.
Oui.
C'est-à-dire que je me suis laissée prendre parce que il y a une telle fantaisie et il y a surtout le parti pris de raconter une histoire tragique de manière lumineuse. Et ça, je trouve que c'est très beau. Et pourquoi de manière lumineuse? Parce que c'est un homme qui est porté par la foi. Et ce qu'il fait d'ailleurs, c'est qu'il en fait une sorte de double du Christ, hein, puisque son père est charpentier, sa femme accouche dans une étable, lui n'est pas là. C'est un homme qui ne connaît pas la vengeance, hein, qui est trahi par ses amis et qui leur pardonne toujours.
Et sa femme.
Donc tout ça est très beau.
Même au pire moment, il leur pardonne.
Oui. Et puis, tout d'un coup, vous avez effectivement des scènes miraculeuses. La chose la plus belle, ce sont ces sifflets qu'il sculpte dans un noyau de litchi à un moment, et qu'on accroche à la patte des pigeons, et qui font de la musique. Et alors, si vous avez plusieurs oiseaux qui volent en même temps, ça fait un concert. Effectivement, on a envie de savoir si c'est vrai.
Je ne sais pas si c'est vrai. J'aimerais...
Et puis, ce qui est fou, c'est qu'il est drôle. Et je pense que c'est pour ça que le livre est vraiment sauvé, parce qu'il a donc une seule testicule.
Un seul, pardon.
Non.
Parce que sinon, je veux dire féminin,
une autre chose,
un autre
mais là, c'est voilà. un
Il
testicule.
A une seule couille, ok. Voilà. Et... Il y a une opération qui s'appelle l'orchidopexie, où on essaye de retrouver l'autre. Alors ça, je vous laisse la découvrir.
Parce Continuez joyeusement votre dîner.
À table.
Après l'urine aux asperges.
À table, les garçons. Non, parce que tout ça est raconté avec une sorte de fantaisie. C'est un vrai, très bon livre.
Arnaud.
Oui, il n'y a pas de couilles dans le potage, hein, c'est le moment de le dire. Un très, très beau livre.
Et je suis d'accord.
Mais on va tous se faire virer, vous êtes dingue.
C'est déjà fait, là, je suis
pour l'instant. J'espère, Sybille Veil, j'espère que vous n'écoutez pas.
C'est la direction hantée, oui.
C'est vrai,
je crois que ça y est. On va terminer.
Avec Olivia, c'est bien le seul livre littéraire de cette soirée. On est face à une fresque, tout simplement. Et d'ailleurs, le personnage de Wang Cheng va faire une fresque à un moment, une véritable fresque. Et d'ailleurs, la manière dont il raconte, quand même, il a un génie narratif. La manière dont il raconte cette fresque, ça pourrait être emmerdant au possible, mais c'est juste passionnant. Il décrit l'Arche de Noé, enfin, il fait une fresque voilà, sur son orphelinat, parce qu'à ce moment-là, il est directeur d'un orphelinat. Donc c'est une fresque, évidemment, de l'histoire de la Chine, des rapports de la Chine avec la religion chrétienne. Fait penser au travail que Etiamble a pu faire, le grand sinologue Etiamble, sur les jésuites en Chine, par exemple. On voit cette espèce de moment qui est de l'ordre du syncrétisme. Alors, je suis là totalement d'accord avec toi, Patricia, avec un sens de la scène au sens presque hollywoodien du terme, hein. Le moment où il va tirer sur Marie, elle est dans la boue là, on voit très bien et avec une capacité érotique d'ailleurs très forte de la scène, le moment où il prie pour sa fille, pour qu'elle rentre à l'université devant un immense tableau de Mao, où il fait une prière donc chrétienne et il n'arrive pas à prier et pourtant mystérieusement, il va être exaucé, donc par Mao ou par Dieu. Et tout ça est absolument, mais juste magnifique. Et ça fait vraiment un très, très grand roman d'aventure qui est de l'ordre du très, très, très grand roman.
On vous conseille tous de lire. Mais ce sera. Il a déjà adapté certains. Il est comme Atik Raimi.
Là, on sent le
film. Il a fait l'idée.
Et là, les personnages existent.
Là, il faudra beaucoup de moyens. Ouais. Et puis on verra si effectivement on peut mettre des sifflets aux pattes des colombes. Allez, l'Évangile selon Yong Cheng, c'est chez Gallimard et c'est signé d'ICJ. On va vite parce que maintenant il reste plus que deux livres et on a moins de temps. C'est donc un autre écrivain étranger qui écrit en français. C'est le russe Andrei Makin, prix Goncourt 1995 pour le Testament français, qui est devenu académicien français en 2016. Au-delà des frontières chez Grasset. Alors c'est assez compliqué, ça tourne autour d'un manuscrit qui est laissé par un mystérieux Vivien de Linden, obsédé par la décadence de l'Occident. Il faut dire le titre de son texte ne fait pas mystère de ses idées, ça s'appelle « Le grand déplacement », qui rappelle le grand remplacement de l'extrême droitier Renaud Camus. La mère de Vivien envoie le manuscrit au narrateur, qui est l'ami du maître à penser, vous me suivez j'espère, de Vivien, qui s'appelle Gabriel Osmonde, dans le but de faire paraître ce brûlot. Alors, pour la petite histoire, sachez-le, évidemment, ça ajoute à la mise en abîme du roman, Osmonde est le pseudo qu'a utilisé Makin pour signer plusieurs livres, dont un pamphlet terrible contre le monde littéraire. Et dans ce brûlot, donc, portrait d'une France sans dessus-dessous, tout y passe. Alors, haine pour les élites et les médias, très à la mode, hantise de l'immigration, haro sur l'antiracisme, texte qu'on peut lire enchâssé dans le roman. Le roman que je trouve terriblement malsain, je ne sais pas comment le dire, j'ai du mal à comprendre ce qu'a voulu faire Makin avec ce « Au-delà des frontières ». On est rapide, Arnaud ?
Ça me conforte dans la théorie que j'avais exprimée lorsque on a parlé du dernier roman de Simon Liberti, à savoir qu'il y a des romans d'extrême droite maintenant qui paraissent de manière assez décomplexée.
Oui, mais sauf que là, c'est fait. Non,
là,
à franchement, tiroir.
Là, il n'y a pas trop de doutes là-dessus. Hein, je veux dire, bon, évidemment, il y a la référence à Renaud Camus. On trouve évidemment une citation de Richard Millet. Absolument. On trouve plein de citations antisémites. Alors évidemment, sous le regard de la littérature, hein, évidemment. Ces phrases antisémites signées l'abbé Grégoire, par exemple. Il est allé trouver une phrase bien moche de Victor Hugo. Vous vous levez tôt le matin pour trouver une phrase moche de Victor Hugo, mais il en a quand même trouvé une. Hein. Évidemment, je vous la cite, le blanc a fait du noir un homme. Je ne suis pas allé vérifier si Victor Hugo a vraiment écrit ça, mais c'est exactement ça la démarche. Tout est... vraiment fasciste. Il n'y a pas d'autre mot. On est là.
Tout en étant attribué à un autre chaque fois.
C'est très hypocrite. C'est très hypocrite. D'un point de vue juridique, c'est inattaquable. Inattaquable. Mais c'est franchement, voilà, toutes les valeurs d'extrême droite. Ça raconte l'histoire de quelqu'un d'extrême droite. Et c'est toutes les valeurs d'extrême droite, du grand remplacement, etc., qui sont étalées et, comment dire, valorisées. Tout simplement valorisées.
Jean-Claude ?
Au début, on se dit, les 50 premières pages, moi je me suis dit, c'est gonflé. Il y va là où on va pas.
Et non, mais Renaud Camus fait attends, ça, Richard Millier fait mais attends, ça, et il s'inscrit vraiment dans cette ligne.
Non mais attends, on voit bien qu'il fait ça, on voit qu'il fait 50 pages, c'est au bazooka, on y va, ça on n'a pas le droit de le dire, donc j'y vais à fond, et il annonce dans ses 50 premières pages que de toute façon c'est pas un livre de lui mais qu'il a découvert ouais, et tout ça. Sauf qu'après ça devient, alors il y a toute la partie idéologique que tu as décrit, parce que dans ce qu'il va chercher comme citation, il y en a une aussi de Lévi-Strauss qui est pas piqué des hannetons, mais qui est encore plus grave que celle de Victor Hugo. Donc effectivement il a fait ce travail là. Et après ça devient complètement, alors, au-delà de l'aspect idéologique, si on reste sur le style, c'est complètement filandreux, nébuleux, tu comprends pas où ça va, tu sais pas où ça vient, tu sais pas.
Bah, malheureusement tu vois très souvent où ça va justement, moi je trouve.
Ouais, ah, si on veut, ouais, si on veut.
Il n'y a pas vraiment de narration non plus.
Non, mais dans la construction, c'est complètement filandreux, cette histoire de ce monde, la mer, tout ça. Et puis le style est engoncé, amidonné. Enfin bon, il n'y a pas vraiment de quoi sauver ça, quoi.
Oui, Patricia.
Bah, la mère, justement, Gaïa, tu te demandes pourquoi il lui en veut autant, quoi. C'est-à-dire que bon, il en fait c'est une femme plutôt sympa. Évidemment, elle est politiquement correcte, mais enfin, je vois pas pourquoi il la traite finalement avec un sacré mépris. Non, moi, j'ai pas compris grand-chose parce que la métapraxie, cette espèce de truc qui consiste à mettre un casque sur la tête et en 10 secondes de pouvoir modeler son destin, ou l'alternescence et Diggers, donc, qui sont une espèce de secte.
Dont Osmond est le théoricien.
Voilà. Voilà. Mais alors, aller au-delà de son être corporel et de son être social pour savoir qui on est, mais moi, je ne sais pas, c'est du lavage de cerveau et c'est, à mon avis, assez totalitaire. Je ne comprends pas, parce qu'il prétend avoir une issue, une voie de, enfin, une porte de sortie. Et ce serait celle-là, mais je ne la comprends pas, moi.
Olivia ?
Oh bah c'est très prétentieux, ouais. Très lâche, très misogyne. Hein, c'est,
oui,
juste
c'est
pour
très
ça
misogyne,
qu'il la
absolument.
Traite mal, cette femme. Et puis en plus, c'est même pas malin, c'est assez idiot, parce qu'au départ, il explique que donc toutes les personnalités d'aujourd'hui seraient déplacées en Libye. Donc Nicolas Sarkozy ouvrirait un magasin de Rolex. Vous voyez comme c'est fin. Je me demande s'il n'y a pas toi, Jérôme. Il y a un célèbre critique littéraire du Nouvel Observateur qui devient éboueur dans un hippodrome sur les rivages des Sirtes. Bon. Moi, j'ai trouvé vraiment que c'était nauséabond. Il y a un truc qui m'a interpellée, c'est qu'il dit qu'une vie, c'est 20 000 à 30 000 jours. Et je me suis dit que c'était pas beaucoup. C'est pour ça que j'ai pas été au bout du livre.
Au-delà des frontières.
Puis il y a zéro humour. Zéro humour.
Non, mais ça, il n'y en avait jamais non plus avant.
Non, dans aucun, c'est vrai. Mais ça fait du bien de temps en temps.
De l'académicien français Andrei Makinal. Et on termine avec Sosa Today. Traduit de l'anglais par Clément Ribes aux éditions de l'Olivier. C'est le titre du livre de Mélissa Broder. C'est d'abord le nom du compte Twitter. 780 000 followers, qui a fait le succès de cette jeune poétesse californienne, devenue en quelques années, me dit-on, une icône d'Internet. Et donc voici, avant son premier roman qui paraîtra en 2020 à l'Olivier, un recueil de ses chroniques 2.0 sur la dépression qu'il aurait gagnée dès ses 12 ans. Et dont voici quelques titres de chapitres. Aime comme si tu essayais de combler un vide existentiel sans fond avec quelqu'un qui s'y noiera. L'art de ne jamais être à la hauteur. Si t'es fier d'entendre des voix qui veulent ta mort, tape dans tes mains. Ou gardez vos amis près de vous et votre anxiété encore plus près. Alors, en prime, on apprend que son fétichisme pour le vomi, tiens, on y revient.
Oui.
Son addiction aux nicorettes et au yoga tantrique, la maladie orpheline de son mari, ou les sextos qu'elle échange avec des inconnus. Allez, est-ce qu'il faut lire ça, Olivia ?
Ah non, il faut le jeter à la poubelle. Y a une chose qui est vraiment insupportable dans l'édition aujourd'hui, ce sont tous les livres de prétendues féministes américaines. Et moi, qui travaille à elle, un livre sur deux que je reçois commence par « Le patriarcat bande mou ». Je n'en peux plus. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas confondre les blogs, les tweets et la littérature. Et ce n'est pas parce que vous êtes une blogueuse célèbre que vous êtes une poétesse, une romancière ou rien du tout. C'est un livre absolument dégoûtant. J'ai commencé vaillamment. Je dois dire que quand je suis arrivée au passage où elle explique qu'elle se mange, qu'elle consomme des éléments tirés de mon propre corps, alors j'ai donc commencé avec cette dame par ses ongles.
Tu me diras, ça fait un peu une unité dans l'émission.
Ça fait une unité. Elle attaque après, elle essaye. J'ai tenté de déguster mon propre cérumen, je cite. Hein. Et plus tard, je suis devenue amatrice de mes sécrétions vaginales. Alors là,
ses crottes de nez.
On arrive à la fin du dîner, là.
Elle a beaucoup mangé ses crottes de nez.
Honnêtement, j'ai sauté le chapitre, je dois dire. Je suis tombée sur celui de sa vie sexuelle. J'avais bien couché avec des mecs de 150 kilos à micro-pénis. J'ai donc sauté également et je suis arrivée directement à son vomi. Puisqu'elle est donc fétichiste de son vomi, parce que le vomi, au moins, c'est vrai. Alors, écoutez, j'ai rarement vu... c'est pas faux, mais enfin, elle peut aussi boire son urine.
Il y a des gens qui le font.
Il y a des gens qui le font, Patricia.
Pas à l'asperge.
Comme ça, il mange deux fois de l'asperge, tu vois.
C'est un livre dénué...
On me dit pour l'instant que c'est pas la peine que tu reviennes samedi prochain.
D'accord.
Patricia.
Bon, hein? Très bien, je reste chez moi.
Non, mais voilà. Alors, pour continuer sur Patricia, les gens ont le droit de boire leur urine, mais nous avons le droit de ne pas les lire, honnêtement.
C'est quand même publié aux éditions de l'Olivier qui fait référence pensée, en matière de littérature étrangère.
Aucun style, il n'y a rien. Rendez-nous Dorothy Parker, rendez-nous Judith Butler, et n'est pas Virginie Despentes qui veut.
Arnaud?
Ah, c'est sûr que si cette fille avait été la goutteuse d'Hitler, le Troisième Reich aurait duré moins longtemps. Ça, je peux vous le dire, là. Je pense que...
On dit toujours qu'Hitler aimait les animaux, mais par exemple, vous savez qu'il a le cyanure avec lequel il s'est suicidé, il l'a testé sur son chien préféré.
Et Dieu sait, c'est sa voilà. Chienne. C'était
oui,
une
sa
chienne.
Chienne Betty, qui s'appelait Betty. Voilà. Bon. Non, alors ce livre est très mauvais. C'est drôle, mais c'est quand même le cacahuétisme de la littérature. C'est un peu, vous voyez, c'est comme les cacahuètes, c'est-à-dire que vous savez qu'il ne faut pas en manger trop, vous en piquer une. Et donc là, ce sont des chroniques, on en lit une. Et on sait qu'il faut tout de suite arrêter et pas en lire une autre.
Vous comprenez
sinon, ça va être mauvais.
L'énorme succès de son compte Twitter, vous comprenez ça, vous?
Oh, oui. Non, mais je ne suis pas sur Twitter
elle
et je
n'irai
pas.
Une phrase que j'aime beaucoup, cela dit, elle dit, elle donne des conseils, elle n'arrête pas de donner des conseils, hein, évidemment, c'est ça. Et les feel good books, et là, on peut dire que c'est le feel bad book. Hein. Il faut dire que c'est publié dans Vice, qui est la section trash. White Trash, hein, du journalisme international, il y a une version française, qui était avec la Ligue du LOL, d'ailleurs,
oui,
qui s'est retrouvée avec la Ligue du LOL.
Dire.
Et il y a un petit côté Ligue du LOL aussi, là, cyberharcèlement, que vous éprouvez en lisant le livre.
Allez, voilà. Quelques mots, Patricia.
Moi, j'en ai pensé beaucoup de bien. J'ai trouvé que c'était, elle a le désespoir flamboyant, elle est tonitruante, elle est exaspérante par moments, mais elle est craquante, elle est très sympathique. C'est une fille extrêmement lucide sur la vie. Elle est follement drôle à un moment donné. Mais oui, il y a une conversation sur Google entre elle et son surmoi. Et alors ça va, c'est comme ça une partie.
Mais c'est grotesque.
Puis à un moment donné, il y a un long paragraphe et son surmoi dit « Trop long, pas lu ». Moi, je suis désolée, ça me fait rire. Bon, voilà. Et quand elle dit qu'en s'y prenant bien, on arrive à vivre 75% de sa vie. Parce que quand tu disais qu'elle avait commencé à être pas bien, etc., à l'âge de 12 ans, elle dit que dès le premier jour de sa naissance, de sa vie,
oui,
elle a pensé
souvenir,
à la mort.
Hein.
Mais non, mais c'est juste, il y a beaucoup de choses qu'il faut pratiquement tout prendre au deuxième degré, même le vomi. Enfin, elle dit pas que des conneries, je suis désolée. Alors là, c'est carrément, je sais que... Là, c'est, oui, c'est, je peux,
non,
je peux,
dimanche aussi. Les,
dimanche,
peux
aussi
le dimanche aussi.
Enfin, moi, ça m'a beaucoup amusé. J'ai trouvé ça un livre très, très chouette. Très
Jean-Claude.
Marrant.
Écoutez, si vous voulez bien m'accorder de ne lire que 4 lignes, pas plus.
Mais 4.
Ça m'évitera.
Parce qu'après, on passe au conseil.
Oui, ça m'évitera. Personnellement, je cite l'auteur, hein, c'est pas moi. Personnellement, je n'aime pas vomir tant que ça. Mais je veux voir des gens vomir. Ou plutôt, je veux être quelqu'un qui vomit sans que ce quelqu'un soit moi. Je veux faire ça dans ma tête surtout. Eh bien, je peux vous dire que là, j'ai calé.
Et elle a beaucoup de fantasmes. Elle a énormément de fantasmes.
Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire, sauf à faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire le balancer.
Oui, mais après, si tu n'aimes pas son vomi, tu es antiféministe et tout.
Non, mais là, c'est moi, c'était sur le style. Après, le reste, elle fait ce qu'elle veut. Mais c'est le style, non, elle ne fait pas ce qu'elle veut, là.
Allez, on va passer au dessert. C'est donc Sosa Today, et c'est Mélissa Broder aux éditions de l'Olivier. Le conseil de Jean-Claude.
Un livre sublime, un livre absolument sublime, c'est le nouveau livre de Jean-Paul Kaufmann qui s'appelle Venise à double tour. C'est une enquête très personnelle dans la Venise secrète des églises fermées à double tour, les églises sont fermées. C'est un ravissement de lecteur, finesse, élégance, érudition, ironie, le bonheur du style. Chaque page est un émerveillement. C'est la méthode habituelle de Kaufmann, c'est-à-dire ça mélange dans la même forme.
Sauf que pour la première fois, c'est appliqué à une ville que tout le monde connaît,
oui.
Alors que jusqu'à maintenant, voilà. Il prenait plutôt des chemins de traverse.
Oui. Et il dit qu'en plus, évidemment, il y a une gageure, c'est qu'il n'y a plus rien d'original à écrire sur Venise. Eh bien, il y parvient magnifiquement. Avec ça mélange l'essai, le livre d'histoire, l'autobiographie, le récit de voyage, le reportage, l'enquête, la chronique. C'est aussi un livre sonore et olfactif. C'est une plongée intime dans une Venise de l'ombre. C'est un très, très grand livre. Venise à double tour, Jean-Paul Kaufmann aux Équateurs.
Et c'est pratique parce qu'il donne aussi la liste des églises ouvertes. Oui. Il ne parle pas que des églises fermées.
Mais c'est très, très, très bon.
Le conseil de Patricia.
Le traquet kurde de Jean Rollin, c'est chez POL. Alors, le traquet kurde, c'est un oiseau, en fait. Et le début de l'histoire, c'est qu'un copain ornithologue...
Mais un oiseau sans sifflet.
Sans sifflet, mais avec une très jolie queue rousse. Et donc, c'est un oiseau qui n'a rien à faire en France et que pourtant... Un ornithologue découvre un jour sur la montagne du Puy-de-Dôme. Et en fait, donc Jean Rollin, comme on le connaît, enquêteur, il part là où est cet oiseau, c'est-à-dire à l'est de la Turquie, au nord de l'Irak, et en Arabie Saoudite aussi. Et il va également au British Museum en Grande-Bretagne, où il fouille les archives. Et c'est là qu'il commence à découvrir les liens entre les ornithologues et l'Empire britannique. Et il y a des histoires absolument incroyables, comme celle d'un colonel... qui est complètement taré, qui est plus ou moins espion, qui est mythomane, qui a fréquenté Laurence d'Arabie. Enfin, moi, j'ai trouvé ça absolument délicieux comme livre.
Le titre, tu le rappelles ?
Le traquet kurde. Il y a même un dessin de cet oiseau en première page de Jean Rollin chez POL.
Mon conseil, c'est un petit livre qui s'appelle « Une vie de soleil » de Jean-Marie Plane chez Arléa. L'écrivain bordelaise balade entre l'île de Ré et le Pays Basque pour réveiller tous ses souvenirs de plage et de bonheur d'autrefois, sans oublier de citer ses écrivains de chevet. Alors, il y a Montaigne, il y a Julien Green, Paul Gentoulet, Pierre Véité ou Jacques Chardonne qui parle lui aussi de la bijouterie de la lumière. On va même passer d'ailleurs dans le livre à un moment Marie Laforêt qui chante une aria de Handel en cuisinant à Plane des tagliatelles. Et c'est un grand moment, une vie de soleil, et c'est chez Arléa. Le conseil d'Olivia.
Le sport des rois de C.I. Morgan.
J'ai pas osé l'inscrire au programme parce que c'est quand même 600 pages.
Oui, presque 700 pages.
Et c'est formidable.
Extraordinaire livre. Ouais. C'est une saga, une fresque d'une famille américaine du Kentucky.
C'est autant en emporte le vent.
Version contemporaine extrêmement cruelle.
Et extrêmement équestre, hein. Si on n'aime pas les chevaux.
Extrêmement équestre. Faut... Oui, mais moi, j'aime les chevaux, mais je ne les connais pas. Mais ça ne m'a pas empêché de dévorer ce livre. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas lu un roman américain de cette ampleur, avec un personnage, une femme qui s'appelle Henrietta, qui est l'héritière du domaine, et qui rompt une tradition masculine, qui va être élevée de manière très curieuse par son père, et qui va rencontrer un métis. On découvre un état du Kentucky où l'injustice et le racisme sont quand même quotidiens. C'est flamboyant, c'est extraordinaire.
Et c'est passionnant avec effectivement
une écriture,
ce père qui va essayer d'inventer, de
la pouliche parfaite,
le pur sang parfait. Et c'est donc chez Gallimard, et c'est le sport des rois. Le conseil pour finir d'Arnaud.
Et un tout petit livre, très beau, très chez Gallimard aussi. C'est le nouveau roman de Philippe Solas qui s'appelle Le Nouveau.
On va l'inscrire au masque, je pense que ce serait bien d'en parler.
C'est un livre absolument magnifique. Là, j'ai une théorie sur le Solers qui publie maintenant des livres très courts, qui sont d'une légèreté absolue. C'est que finalement, c'est plus Philippe Solas qui les écrit, mais Philippe Joyot. C'est-à-dire qu'il a repris sa véritable identité. On sent là toutes ses racines. Ça parle de son grand-père.
C'est de plus en plus personnel.
Qui était marin. Oui, c'est pour ça que je dis, c'est comme si Joyot avait pris les commandes sur Solers. Ils ont un peu la même voix, ils ont un peu la même histoire, mais pas toujours les mêmes idées. C'est très intéressant et surtout c'est très beau. C'est un gros livre, enfin un beau livre sur Shakespeare essentiellement, mais pas simplement. Et je trouve que là il y a, comment dire, une façon de faire, de décrire des non-romans qui est absolument merveilleuse.
On va en parler dans un prochain masque. Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Patricia Martin, Olivia de Lamberterie, Arnaud Vivian et Jean-Claude Raspienjas pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Et ce soir, à l'Alliance française à la technique, il y avait, je les remercie, Marie Le Peintre, Nicolas Depagraf, ainsi que Eric Villenfin. De la réalisation était signé Xavier Pestugia. Vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien, il aura lieu le jeudi 7 mars au Théâtre de l'Alliance française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacré au théâtre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parle de films et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.